Je m'appelle François Lavallée. Je viens d'une famille aimante de la Montérégie au Québec. J'habite Montréal et je compte depuis qu'on m'a fait le merveilleux cadeau de me nommer compteur au bord du feu de camp en camp de vacances. C'est en 1995.
Je m'appelle Joujou Turenne, amie du vent, insulaire de divers horizons, née au Cap-Haïtien, vivant à Montréal, et je compte depuis 1988.
Aujourd'hui, on se rencontre pour jaser de compte. Pour lancer la discussion, on a apporté trois objets qui représentent les trois sujets dont on va vous parler.
Vous écoutez Vide ton sac, tête à tête autour du compte, un balado de la Maison des arts de la parole. Ça fait tout étrange de se retrouver dans ce lieu qu'on connaît depuis 30 ans, hein, quand même. Et puis d'être juste nous deux avec une belle équipe, mais de sentir la présence de ces gens-là qui ont habité ces lieux-là. Mais c'est cette salle qui est imprégnée de nous, de vous, de eux, de la ville, du conte, de ceux qui viennent d'ailleurs, qui traversent. Et...
Moi, je me rappelle d'avoir fait dans la salle ici une rencontre scolaire avec des rencontres scolaires avec des classes d'adultes, formations adultes qui étaient venues. Puis dans ces rencontres-là, il y a toujours une super assemblée qui se passe parce que les gens, quand on rencontre des classes en milieu scolaire, ils ne savent pas, ils ne viennent pas, ils n'ont pas pris leur billet pour venir assister à un spectacle de conte, fait qu'ils découvrent.
C'est ça.
On est vraiment, puis on n'est pas la vedette qu'ils viennent voir ou la personne qu'ils connaissent déjà. Il y a une vraie surprise.
Ouais.
Et dans ces moments-là, je trouve qu'il se passe tout ce que j'aime. Il y a une assemblée surprise.
Ouais.
Puis ça, pour moi, c'est gorgé de tout ça ici. Là.
Puis, quand on vient de Montréal, comme nous deux, déjà sur la route, avec les montagnes, les collines, les allées d'arbres. Ça, c'est comme, OK, j'arrive en Estrie. Ouh! On arrive au festival! Et puis, il y a les personnes aussi qu'on connaît qui habitent ces lieux-là, qu'on sait qu'ils nous attendent et puis que nous aussi, on les attend.
Ah, tu parlais de traverser les territoires, mais quand moi, je vois les territoires, j'ai comme le goût, envie de rentrer dedans.
Ouais.
Puis d'aller me promener,
ouais.
D'aller dans les montagnes, d'aller dans la forêt, d'aller... J'ai comme envie de te parler de mon premier objet.
Mais vas-y donc!
Ouais, l'objet qui représente pour moi le conte.
Oui.
Ce que c'est qu'une histoire, que c'est quoi ça le conte. Puis mon objet, c'est... Mais c'est un petit caillou.
Un beau caillou.
Bien, il est devenu beau parce qu'il est chargé. Il est chargé de ce que j'ai pu y mettre dedans, puis de l'attention que j'y ai donnée. Moi, j'ai commencé à compter joujou dans les camps de vacances. Puis on avait l'habitude, avec un bout de branche, avec un caillou, d'inventer des mondes, de faire jouer le réel puis l'imaginaire ensemble. Mm. Puis souvent, au début du séjour, on trouvait un caillou, puis pendant toute la semaine, il nous accompagnait. Puis on l'avait dans le creux de nos mains. On sentait ses cicatrices, on le plaçait comme ça dans la lumière. Il y a les odeurs, c'est très sensoriel pour moi, un caillou, comme un conte. Hein? Mon entrée dans un conte, c'est de manière souvent sensorielle. Des fois, c'est le paysage, des fois, c'est un personnage qui fait que je m'accroche à cette histoire-là. Puis je le traîne avec moi, puis je marche avec. Puis à la fin du séjour, avec 12 enfants, bien, on avait un caillou en commun, puis il était chargé de tout le séjour qu'on avait vécu ensemble, de nos expériences, de nos joies, des peines. Mmh. Parce que des enfants qui viennent en camp de vacances, ils s'ennuient aussi. Des fois, il faut qu'ils apprennent à jouer, c'est tout seul.
Mmh.
Et ils étaient chargés de toutes ces peines-là. Fait que quand on le déposait à la fin du séjour, dans un endroit secret, à nous, puis qu'on se disait ensemble qu'on allait le retrouver l'été prochain, bien, il y avait des larmes. Puis c'est drôle parce que c'est un caillou. Il y avait des larmes, il y avait des rires. Et tout ça à cause d'un caillou qu'on avait chargé. Pour moi, une histoire, un conte, c'est chargé de joie, de peine, d'espoir, de désespoir, que l'humain a décidé de mettre dans une histoire pour essayer de mieux se comprendre. Pour moi, un caillou, c'est comme une histoire, ça pose des questions. Fait que pour moi, le conte, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne comme un caillou.
Un caillou. Tu le traînes dans tes poches ou tu le laisses dans une boîte ou ça se passe comment?
C'est une belle question, ça, Jojo, parce que pendant des années, je me rappelle d'avoir trouvé un caillou une fois sur une plage en Bretagne. De l'avoir pris avec moi, puis de l'avoir mis dans ma poche, puis de l'avoir traîné, puis souvent le sentir. Puis d'être revenu au Québec, puis d'être tombé, ça tombe des fois par hasard. C'est comme quand on trouve une histoire, un conte, souvent c'est par hasard. Et d'avoir pris mon caillou, trouvé en Bretagne, de le déposer, puis de prendre d'autres cailloux, puis de faire un bout de chemin avec. Fait que prendre et laisser, peut-être pour le suivant. Il y a l'idée de ça dans ce qui est le conte pour moi, un objet de transmission qui fait qu'on s'inscrit dans une lignée. On devient des fois témoin, puis des fois héritier. On témoigne de quelque chose, puis on en hérite aussi. Puis, des fois, on se retrouve dans l'autre rôle. On ne peut pas juste être témoin, puis...
C'est bon. C'est intéressant, ton histoire de caillou, parce que beaucoup de conteurs, conteuses ramassent des cailloux, et je trouve beau, déjà, ton caillou.
Il commence à avoir de l'allure, hein?
Il commence à avoir de l'allure. Et puis, ça... On se retrouve dans ton caillou. Et parlant de se retrouver dans ton objet, moi, j'ai apporté aussi un objet dans lequel je me retrouve et que je pense qu'il identifie le conte. Puis je pense que les conteurs, conteuses vont pouvoir prendre pied dans mon objet. Mes objets.
De toute beauté.
Ouais. Sont en finesse. Des chaussures. Alors, ces chaussures-là, qui sont comme des bijoux, parce que il y a des petites paillettes dessus, des Swarovski qu'ils appellent. Ça brille, mais en même temps, il y a des appliques qui sont mates. Et c'est sur du tissu, c'est collé sur du tissu. Et le talon est tout plat, puis tu vois que j'ai marché dedans. Ça, la semelle en cuir est devenue presque papier sablé parce que j'ai beaucoup marché. J'ai pris cette paire de chaussures parce que c'est une paire de chaussures qui a fait une tournée d'un spectacle. Je pense que ces chaussures-là ont vu plus que 10 000 enfants. J'ai remarqué que nous, conteurs, conteuses, on a une identité dans nos pieds. Parce qu'on marche beaucoup, on fait des randonnées, puis il faut qu'on se promène en avion, en bateau, en train. Des fois, quand on va en Afrique, c'est à moto. Tu viens prendre la moto? Oui, OK, tu peux pas y aller en talon haut, là, en moto. Donc, il faut toujours avoir des chaussures prêtes à partir. Et dans les chaussures, il y a cette exploration de l'espace physique, de l'espace géographique, mais de l'espace de l'imaginaire. Donc, c'est vrai que je parle de chaussures, mais c'est une métaphore pour dire que nous marchons, nous roulons, nous circulons, nous courons, nous allons à la rencontre de l'autre, à la rencontre de nos publics, à la rencontre d'autres conteurs, d'autres paroliers, d'autres parolières, d'autres artistes du verbe et puis d'autres artistes tout court, d'autres personnes, d'autres vies, d'autres discours et puis d'autres mondes. Les chaussures nous permettent de marcher dans l'histoire, dans les territoires de soi-même, les territoires de l'autre qui écoute, dans les territoires des histoires qui nous habitent depuis longtemps, de prendre pied dans les histoires qui nous ont été offertes en cadeau ou transmises ou lues ou imaginées. Donc, moi, je marche dans le conte et j'ai constaté que les conteurs, conteuses marchent aussi. Avec des chaussures toujours intéressantes.
Ah ouais.
Voilà pour
ça. Ça me rappelle qu'une fois j'étais au Djibouti en Afrique de l'Est, puis c'est la première fois que j'allais au Djibouti. Je ne savais pas où est-ce que c'était avant d'y avoir mis les pieds, avant d'avoir mis mes souliers, pour aller jusque-là. Puis je m'étais retrouvé dans un désert, dans une école, aller rencontrer des adolescents, des adolescentes. Uh-huh. Puis il y avait un ventilateur qui tournait au plafond, puis il faisait super chaud. Puis moi, quand il fait chaud, mais je deviens rouge comme une tomate, j'étais un peu rouquin. Puis, et là, on m'a demandé de raconter une histoire de mon pays. Ça questionne, hein? Oh. Les histoires de nos pays.
Oui,
parce que nos pays aussi,
ça.
Hein? Et là, bon, j'ai décidé devant eux autres de leur raconter, de les amener dans la chasse-galerie. Je suis allé là-dessus. Uh-huh. Je la raconte pas si souvent que ça, mais là, j'ai choisi de la raconter. Uh-huh. Là, je comptais devant eux autres, puis je leur parlais de la neige, je leur parlais de la tempête, je leur parlais des violons, puis des tapis de pied, puis de notre manière de faire la fête.
Oui.
Puis là, je voyais dans leurs yeux qu'ils étaient ailleurs. L'affaire, c'est que moi, mes souliers étaient aussi ailleurs, parce que dans un désert, moi, j'avais imaginé ça comme dans mon carré de sable d'enfant, avec du sable partout, mais non, c'est des cailloux, c'est des grosses roches. C'était pas ce que j'avais imaginé.
Uh-huh.
Et là, je me rendais compte qu'avec nos souliers, avec nos chaussures, uh-huh. on n'était plus au Djibouti, on n'était pas au Québec, non plus par l'imaginaire. On était rendu sur un territoire suspendu uh-huh. qu'on appelle imaginaire pour
oui,
moi.
C'est ça.
Et sur ce territoire-là, c'est le lieu de la rencontre.
Ouais.
Et pour moi, le conte, c'est un lieu de rencontre avec l'autre.
Dis-moi, François, est-ce que tu tapais des pieds comme tu fais des fois à Djibouti?
Oui, là, je tapais de la sandale.
OK.
Parce que j'étais... puis des fois, j'enlève mes sandales, puis je tenais du pied aussi. Mais oui, je tapais du pied. C'est dans le geste, dans le corps.
Ouais.
Il y a comme... comme toi, Joujou, quand tu danses, ta manière physique d'être
ouais.
dans... Fait que les souliers ont sûrement travaillé avec le corps qui bouge aussi,
ouais.
qui s'agite, qui
ouais.
coince de même sur les planchers de gymnase d'école, parce
ouais.
que c'est ça, dans les écoles, des ouais. bibliothèques, dans les classes, dans leur intimité de classe, c'est là qu'on se retrouve, quand on va dans...
Et ça résonne et ça fait écho à toute forme de percussion, j'imagine, Djibouti ou ailleurs aussi. Et cette percussion nous ramène à cette percussion que nous avons constamment dans notre coffre, notre cœur, qui fait boum, 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 boum. Et donc, en faisant écho avec nos jambes, nos pieds, et toute la marche et la démarche que ça fait, ça nous ramène à ce qui est de plus grand qu'on essaye de mettre en bout de mots, en bout de phrase, en poésie, en conte, en récit, pour aller toucher l'âme humaine, pour essayer de se rappeler combien humains nous pouvons être dans les moments d'égarement.
Et choisir les bonnes chaussures avec les bonnes surfaces où on va mettre les pieds aussi.
Oui!
Parce que quand on tape du pied, il y a un son, pour moi, c'est là que ça revient au sensoriel. Comme dans l'écriture.
C'est vrai.
Mais comme dans la manière de prendre la parole, de poser la voix, de placer son corps, ouais. choisir les bonnes chaussures au bon endroit pour que ça sonne,
oui.
pour que ça soit en harmonie avec ce qui est en train de se passer là. Puis des fois, juste un peu à côté, parce que c'est ça la force de l'imaginaire,
ouais.
c'est de partir dans on peut être dans le réel, dans l'approche du réel, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui bascule, juste comme ça, qui pense de côté. C'est là qu'il y a un arbre qui se met à pousser au bout, puis qu'il y a une corneille qui apparaît, la mort, la vie, tout vient dans le conte se placer là-dedans.
Ouais.
Comme un...
Et si je peux me permettre,
ouais,
François, en reprenant la métaphore des chaussures et de ton caillou, souvent, quand on a des chaussures qui sont un petit peu fines, tout en dentelle, puis qu'on marche sur une surface toute lisse, tout d'un coup, on tombe sur une grosse roche. Ah! On trouve qu'on n'a pas les bonnes chaussures. Alors, c'est la même chose. Est-ce que c'est comme l'histoire, le conte et le conteur, la conteuse et la parole, ça devient un va-et-vient perpétuel pour trouver sa source, trouver son rythme, trouver son public, trouver la route qui mène au bon endroit pour être... C'est pas le bon endroit, le moment le plus approprié pour dire cette parole-là qui... pourrait être déplacé dans un autre contexte, par exemple. Voilà.
Mais là, j'ai le goût de faire un peu d'esprit de bottine, ou peut-être en disant que peut-être Joujou, que le caillou, des fois, il se place dans la chaussure.
Oui.
Puis on a beau choisir les plus belles chaussures, et parfois le caillou, il est fatigant parce qu'il s'est glissé là, comme le conte peut l'être aussi.
Mm-hmm.
Parce que pour moi, un conte, ça pose des questions plus que ça donne des réponses aussi. C'est vraiment comme une espèce de petit prisme à questions.
Mm-hmm.
Puis c'est ça que je trouve fabuleux avec les histoires qui accompagnent les humains depuis le début des temps.
Ouais.
Et qu'on puisse s'inscrire dans cette... C'est que ça vient à poser des questions sur notre état, l'état de l'humain dans le monde.
Alors, François nous a demandé d'apporter un objet qui représente notre univers artistique. Eh bien, je n'ai pas pu trancher, j'ai apporté des objets.
Ah, ça me surprend.
Oh, ça me surprend, ça te surprend, je suis sûre. Alors, mais ce sont des objets qui se font écho. Voilà, je vais commencer par mon bâton de pluie qui est souvent surmonté d'un voile. Donc déjà le bruit, on entend la pluie, on entend le vent, on entend la mer, on entend les vagues. Et selon la vitesse, on entend une percussion. Et c'est fou ce qu'on peut faire avec un bâton de pluie. Surmonté d'un voile, pour moi, ça fait yin-yang. Ça fait un équilibre entre ce qui est rigide et ce qui est souple. Hein, le fameux le chêne et le roseau, c'est ça. Et moi qui m'appelle amie du vent, entendre le bruit du vent et sa vibrance, ça me rappelle que l'équilibre, c'est la mouvance. La mouvance jusqu'à l'inertie. La mouvance jusqu'aux vagues de la mer. La mouvance jusqu'au bruissement. Et on me voit souvent bouger très rapidement et on garde ça en mémoire. C'est ce qu'on me rapporte. Mais moi, dans mon imaginaire, il y a l'inertie. Et souvent, mon bâton de pluie, il est en état d'inertie. Mais ça, on ne le remarque pas parce que ce qui est agité frappe beaucoup plus. Mais il y a à peu près 10% du temps où j'agite mon bâton et mon voile.
Ah ouais.
Tout le reste est beaucoup plus au repos. Et pour compléter cet univers, il y a les paroles parce que il y a la gestuelle, ma parole vient du corps, de la mouvance jusqu'à l'inertie, mais aussi des mots. Et les mots qui m'inspirent, les livres que j'ai beaucoup, dont je me suis beaucoup imprégnée, des livres de sagesse, des livres de contes, de poésie, j'aime les mots. Et avant de commencer à écrire mes propres contes, je lisais des contes, pas pour les dire, mais pour m'en imprégner. Et j'ai apporté contes des sages d'Afrique, Amadou Mpateba, parce que c'est la source, c'est l'une des sources. J'ai apporté aussi un livre qui est tellement, tellement, tellement ancien. Il a appartenu à mon père, « Rose et Camélia, poésie de Charles Mouravia ». C'est un livre qui date de 1903. Tu vois comme il est vieux. Ce sont des poèmes. Et j'imagine mon père lire ça à ma mère, Rose et Camélia, c'est un grand, grand classique. Et j'ai le bonheur d'avoir un original de 1903. Tu vois comme il est vieux, j'ai retrouvé ça dans les affaires de mon père. Et c'est très précieux. Et par moments, c'est pas pour les dire, c'est juste pour les lire. Et le fait que ça m'habite, ça meuble mon imaginaire jusqu'à très loin dans le temps. Et jusqu'à très loin dans les âmes ancestrales, jusqu'à plus loin que ma terre natale Haïti, jusqu'à plus loin. Tu vois, j'ai apporté ma terre natale Haïti, et puis mon ancestralité, l'Afrique. Et puis, évidemment, tu vois ça, mon bâton de pluie, je l'ai pris au Québec. Hein? Il n'y a pas de bambou vraiment qui pousse ici, mais je l'ai acheté ici. Et puis, le voile aussi, il vient d'ici. Du Québec. Alors, c'est mon imaginaire hybride, mes différents lieux et puis mes différents rythmes. Ça, c'est mon univers de point de départ. Maintenant, ce que j'en fais, j'en fais tout ça entre le dire et la parole, entre le dire avec le corps et la parole qui est muette, entre les chants, entre l'interaction avec le public. Les gens entendent souvent crier, crac. Oui, oui, raconte-moi donc ton histoire avec Mystic Creek. Ah, c'est bon. Mais parfois, on n'est pas obligé de dire Mystic Creek, Mystic Crack. Même qu'à l'origine, dans la Caraïbe, dans les Antilles françaises notamment, on dit cric crac pour commencer un conte. Mystic Creek, Mystic Crack, est-ce que la cour d'or, mais pas en Haïti. Moi, c'est sur une forme artistique que je suis allée faire des emprunts pour habiller mes contes, mais c'est pas un truc qui est obligatoire en Haïti, mais il faut être deux, comme on le fait là. Le conte, c'est la rencontre, et ça, c'est comme un bâton de parole pour dire, est-ce que je peux prendre la parole? Hé, tu es là, tu m'écoutes? Ah, tu m'as perdu. Et puis le silence, mais elle ne dit plus rien. Le silence aussi vient capter l'attention. Voilà,
c'est ça. La mouvance et l'inertie.
Oui.
Et je joue à ce qui nous relie dans nos paroles. Je pense qu'il y a le désir d'aller dans l'écriture aussi, d'aller dans l'orature, mais aussi dans l'écriture.
Oui.
Moi aussi, je suis attaché au livre, aux mots qui sont choisis, à la manière de faire entrer dans l'imaginaire par une écriture fine, cinématographique et chirurgicale, que je m'amuse à dire souvent. Prendre la parole, ça peut être aussi en sculptant, en dansant, mais prendre une parole, on a déjà parlé des paroles.
Ouais.
Puis moi, j'ai le goût de revenir sur l'objet, sur le bâton de pluie. Quand tu parlais tantôt de mouvance puis d'inertie, moi, j'ai grandi au bord de la rivière Richelieu en Montérégie, qu'on appelait autrefois la rivière des Iroquois.
Ouais.
Puis, enfin, moi, j'allais au bord de la rivière, puis on voyait le courant. Il y avait les boîtes à anguilles chez les Goyettes, les mille roches. Puis le courant était assez fort, mais c'était pas nécessairement très profond à cet endroit-là. À des endroits, la rivière, elle l'est plus. Mais dans le fond de la rivière, il y avait cette espèce de mouvance-là. La rivière qui s'en va, qui arrivait des États-Unis, puis qui partait vers le fleuve, puis le grand large, puis qui me faisait donc rêver. Mais je chantais aussi au travers cette mouvance-là qu'il y avait une force qui était des profondeurs, cette force-là, qui est les fonds d'une rivière, le lit, là où les sédiments viennent se poser. Puis j'ai l'impression, des fois, que dans le geste de raconter, qu'on est dans un mouvement, mais qu'en dessous, il y a tout un espace qui se déploie. Comme si, aussi, des fois, on prenait un caillou, puis qu'on le lançait, puis que le caillou s'en va, puis vient brasser le dessous, qui vient, les sédiments remontent, puis c'est peut-être ça, gorgé de souvenirs, de sensations, de gens rencontrés, des regards croisés, des amitiés, des dates, des points d'histoire. Puis c'est peut-être ça que ça révèle en moi, raconter des histoires. Puis dans mon univers artistique, dans mon univers de conteur, j'aime aller brasser le fond de mon ruisseau à moi, de ma rivière, pour aller faire grimper ça.
Ouais.
Une espèce de flou, puis là, ça redescend. Puis je lance, puis je raconte.
Et c'est quoi ton objet pour illustrer ça, François?
Bien, l'objet que j'ai décidé d'apporter, qui illustre, qui rappelle mon univers à moi, c'est le couteau en bois que mon père m'a a sculpté pour moi quand j'avais 10 ans. J'étais dans les scouts, puis on partait en camp d'été avec les Louveteaux, au camp Savio, pas bien loin d'ici, là, à North Attlee. Puis il est en bois, puis pour moi, la matière, et la forêt, la nature, est super importante dans ma sensibilité, dans ce que je suis. On fait partie de ce grand tout-là. Cette branche-là, je me rappelle que j'étais rentré avec dans la maison, puis mon père était parti dans son atelier, puis avec ses outils. Au petit matin, quand je me suis réveillé, après avoir passé une partie de la nuit, mais il y avait le couteau qui était là. Fait que pour moi, dans ce couteau-là, qui est une fabrication qui est faite par la main de mon père, qui est faite à un souvenir, c'est un souvenir fait maison, c'est ça que j'aime dire. Mais il y a mon univers qui est celle de l'univers de l'intime. Il y a toujours une couche quand je raconte qui touche à ma présence au monde, à ce que je connais le mieux, à moi, mon regard. Et pour moi, ce couteau-là, mais il ramène au souvenir de mon père. Puis il y a toujours une deuxième couche dans mon univers qui est celle de l'imaginaire. C'est un bout de bois qui devient un couteau, c'est magnifique. Mm-hmm. Puis on vient y croire, puis toute la fierté que j'avais apporté ça, avec le costume que j'avais fait. Et que ma mère m'avait, je l'appelle l'espèce de couturière somnifère qui, durant la nuit, là, elle là, demain, j'entendais, puis j'étais couché dans mon lit, puis j'entendais ma mère travailler. Puis ça, c'est du souvenir fait maison aussi. Fait qu'il y a la couche de l'intime, il y a la couche de l'imaginaire, puis il y a une troisième couche qui est celle, la sociétale, la couche de société. J'ai envie de te présenter mon troisième objet, qui est pour moi la représentation du conte en milieu scolaire. C'est ma balle de baseball, qui, quand j'étais enfant, était un des sports préférés des, avec mes frères, des jeunes du quartier. Ils se rassemblaient dans le cours derrière chez nous, puis on passait des après-midi à jouer au baseball. Bon, il y a la texture de la balle, encore, il y a la texture, il y a les lignes, il y a la manière de passer, il y a toute la transmission de lancer une balle aussi. Pour moi, dans un conte en milieu scolaire, c'est une transmission, c'est un espace où on prend ce qu'on tente sur scène dans nos projets de création, ce qu'on tente sur le terrain en racontant nos histoires, les expériences, les rencontres qu'on fait dans les nombreux festivals de contes qu'on fait et qui sont à chaque fois très riches. Quand on part avec nos souliers là, puis qu'on va rencontrer des gens, on revient avec ça. Et pour moi, la chance d'aller dans une école et d'avoir un lieu de transmission comme ça, pour moi, c'est fabuleux. Et je fais le lien avec le sport, parce que le sport, comme le baseball, comme le hockey, pour moi, c'est des lieux fabuleux de transmission. Mm-hmm. Apprendre à tenir la balle, à faire le fameux lancer papillon avec les cordes, les doigts placés. Le lancer. La manière de frapper, d'attendre, d'organiser l'espace aussi. Le jeu, les points, c'est toutes des règles, comme une histoire qui est en train de s'écrire et de raconter. Il y a tout plein de règles qui sont transmises. Puis ce que j'aime avec le baseball, comme on le jouait, puis c'est pour ça, c'est que j'ai jamais autant aimé le sport quand il se désorganise et sort des lieux officiels. Quand on est dans une cour, avec la haie qui devient le lieu à traverser pour un coup de circuit, qu'on met par terre qui est des faux buts avec des planches qu'on s'organise, puis qu'on laisse une chance aussi à l'autre qui est plus petit. Puis quand le sport devient organique comme ça, je le trouve fabuleux. Pourtant, il y a une structure, c'est une histoire, il y a une manière. Et quand j'arrive dans les écoles, j'ai envie que le conte soit un jeu aussi, un jeu qu'on réinvente et que cette matière-là du conte devienne prétexte à se poser beaucoup de questions. Mais surtout, à apprendre à être ensemble en assemblée. Moi, je dis tout le temps que je suis un artiste de la parole, de l'imaginaire et de l'assemblée. Arriver dans une classe, dans la classe, tasser les pupitres, se placer en cercle avec la prof qui vient s'inviter dans le cercle aussi, parce que on vient ensemble vivre quelque chose. Et créer un moment, passer une heure, puis parler de l'imaginaire, du voyage, de ces rencontres-là, pour moi, c'est fabuleux. Puis la fameuse balle de baseball, quand elle traversait la haie, puis elle allait dans le cimetière anglican de l'autre côté, on allait à la rencontre de l'autre, du mystère, à la rencontre des anglophones, dans une culture moins francophone. On traversait la haie et l'on se prenait pour d'autres. Nos mitts de baseball devenaient des chapeaux de guerriers, puis nos bâtons devenaient des épées de chevaliers. Puis nous autres, on était comme des Alice au Pays des Merveilles. Puis on partait vers un monde imaginaire. Fait que la balle, si je peux arriver dans une classe, puis la faire sortir de la classe pour aller loin dans l'imaginaire avec eux. Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, je considère qu'on a besoin de l'imaginaire pour trouver des réponses imaginatives à des problèmes des fois complexes. Et si ça peut être ça, le conte en milieu scolaire, d'amener une part d'imaginaire, d'entraîner ce muscle-là pour aborder des questions complexes que le monde nous pose. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ma balle de baseball, parce que c'est un jeu, cette affaire-là.
Permets-moi de prendre ta balle au rebond.
Ah oui! Ouh! Oh, attention!
concept! Ouais. Et de te présenter mon objet à moi pour le milieu scolaire et les formations. J'ai apporté un carillon. Il aurait pu être un carillon de bambou, mais ce carillon de métal, il n'y a pas un endroit où je vais, où il n'y a pas de carillon. Le carillon, parce que il est agité par le mouvement, mais même si tu le laisses là, il est agité par le mouvement du vent. Âme du vent, carillon, comment on fait pour présenter le vent? Il est où le vent? Est-ce qu'on va présenter des feuilles qui tombent? Alors voilà le carillon. Voilà. Pour moi, avec le carillon et le vent comme vecteur de cette parole, de cette formation, de cette transmission, c'est une manière de dire que nous sommes des héritiers de quelque chose, d'un savoir, et à notre tour, nous passons le flambeau à d'autres, non pas pour le leur donner, mais pour le partager. C'est pas moi, j'ai jeté ma serviette, puis ramasse là. C'est regarde, on est en train de vivre ensemble. On est en train de vivre ensemble autrement, avec des ingrédients que moi j'ai, peut-être que tu n'as pas. Et peut-être que toi, tu as 8 ans et tu as des ingrédients que moi j'ai pas. J'ai jamais tant appris qu'avec les enfants en formation. Et la formation aussi avec les plus grands, avec les aînés, avec les formateurs. Former des formateurs, et à chaque fois que j'agite mon carillon, ça fait « Ah, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer ?» Ça attire l'attention. C'est un petit bruit tout doux et plus puissant qu'un grand « Oh yeah, oh yeah !» On t'écoute, tais-toi, tu fais trop de bruit. Mais là, ça c'est « Ah, il se passe quelque chose. » Alors, en milieu scolaire, souvent je chante des chants du vent. Bon temps, c'est moins, mauvais temps, c'est moins. Non, mais ça y est. J'aurais pu dire aussi que c'est bâton et le voile, mais avec le carillon, c'est vraiment le vent. C'est un vent porteur de nouvelles, un vent porteur de formation, un vent porteur d'amitié. Et quand on dit vent, on est forcément en train de faire référence à l'air. L'air qui est un souffle de vie viscéral. C'est. Tu peux vivre sans eau un petit peu, quand même un petit bout de temps. Tu peux te passer de feu. Mais le vent, l'air, au bout de très peu de temps, tu crèves. C'est essentiel. Alors, le vent est vecteur. Et en milieu scolaire, c'est un vent de parole, un vent de connaissance que j'essaye d'insuffler comme une courroie de transmission, comme une catalysatrice, sans me prendre trop au sérieux, proposer un moment d'une rencontre, puis de, parfois, il ne s'agit même pas de moi, il s'agit juste de déposer quelque chose et de les voir interagir entre eux. Donc, avec ça comme vecteur, le vent passe et le vent revient. Et on dit ami du vent, ami de la parole, c'est aussi l'ami des ancêtres qui nous ont laissé des choses. Et peut-être qu'un jour, nous serons les ancêtres des lendemains. Et peut-être que ces paroles, encore là, sans que ce soit pétage brutel, là, hein? mais un jour, nous serons dans le firmament du temps. Alors que cette parole-là, et ait eu le temps de s'imprégner quelque part et avec une route que d'autres poursuivront. Comme un petit chaînon dans une grande chaîne. Ben, nous, on était là. Une petite graine sur un sable. Puis ça fait son chemin.
Oui, puis le fait de laisser entrer le vent dans nos écoles, c'est de laisser une place à la voix des ancêtres, la voix des anciens qui étaient là avant nous, et de s'inscrire dans une transmission, c'est laisser la place aux voix de nos morts dans le monde actuel, dans l'espace. Puis ça, en voulant faire une allégorie avec les systèmes de ventilation dans les écoles, Joujou, j'ai l'impression que de laisser entrer l'air, c'est une question de société actuellement. Oui. C'est quoi les courants d'air qu'on laisse entrer dans nos classes? Oui. Est-ce que nos classes sont trop fermées sur des systèmes rigides avec des connaissances? Est-ce que le conte qui ouvre et qui permet de voir derrière les murs, de lancer des balles derrière les murs, est-ce que sa place, ce ne serait pas là sa grande pertinence aujourd'hui, en faisant rêver de l'autre côté des murs? Il y a Miguel Torga qui a dit « L'universel, c'est la maison moins les murs. Mm-hmm. » Une classe, est-ce que ce serait ça aussi? Ça laisse passer du vent, je trouve.
Ouais. Et pour aérer l'esprit, pour aérer les cœurs et pour permettre la rencontre. On revient toujours à ça, hein? On ne ferait pas ce métier-là si on ne voulait pas qu'il y ait de rencontres. Et il n'y aurait pas de rencontres telles que nous le proposons si on ne le faisait pas avec nos héritages qui nous viennent de ce vent-là, qui nous viennent de... Même quand on n'a pas eu une histoire qui nous a été racontée telle quelle, cette inspiration, elle vient de quelque part. Donc, c'est un vent, parfois, qui vient de la mer, un vent qui vient d'un rêve, un vent qui vient d'un moment au bord du ruisseau dont tu parlais tout à l'heure. Ça peut être... D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un qui arrive par surprise, « Quel bon vent t'amène!
Ouais. »
D'abord, on veut que ce soit un bon vent. C'est ça. Donc, le vent, il est partout.
Et le vent qu'on inspire, le vent qu'on expire aussi, celui qui inspire surtout, puis qui va expirer pour aller vers... On s'inscrit là-dedans. Ouais. Un pied quelque part dans le passé, on est dans le présent. Avec les vents du présent qui nous font toucher aussi. Puis on a un pied toujours vers l'avenir.
C'est pour ça qu'on dit « soufflez vent, nawayo. Soufflez vent, maman moins sous la mer, papa moins sous la mer. Soufflez, soufflez, nawayo. » Mes aïeux sont sur la mer. Souffle. Souffle avec moi. Soufflez, soufflez, nawayo.
Dans mon conte, chez mon oncle Gérald, le vent, il souffle. Puis on dit que c'est le bonheur. Puis de temps en temps, quand on écoute très bien au travers le bruit du petit vent qui entre par la cheminée, on peut entendre un petit... Et ça, c'est la tristesse. Parce que dans chaque petit bonheur, il y a toujours un brin de tristesse. Pour savoir c'est quoi le bonheur, il faut aussi connaître la tristesse pour pouvoir faire la différence.
C'est pas enregistré, ça, là.
C'est tout enregistré.
Oh, boy!
C'est pas enregistré, sauf au son ou à l'image.
Non, ouais.